Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire Sciences du logiciel.
Donc bonjour à tous et donc bienvenue à ce sixième cours de la série sur les structures de contrôle. Et donc aujourd'hui, nous allons approfondir le sujet que nous avons déjà abordé la semaine dernière, les effets, les gestionnaires d'effets, mais sous un angle plus théorique. Alors, pour commencer, peut-être, qu'est-ce qu'on entend par ce mot « effet » ? C'est quoi les effets d'un programme ? Donc, l'idée, c'est tout ce qui va au-delà de simplement calculer le résultat final, la valeur à la fin. Donc, pendant le calcul, il peut se produire des effets, on appelle parfois des effets de bord, sur le monde extérieur. Le programme peut afficher des choses à l'écran, écrire des choses dans des fichiers, communiquer sur le réseau. Si c'est un programme embarqué, il peut lire des capteurs, commander des actionneurs. Et pour certains auteurs, on peut aussi voir s'il termine ou s'il diverge. Donc, d'une certaine manière, la divergence, la non-terminaison, c'est aussi un effet sur le monde extérieur. Et puis, il y a un effet sur l'état interne de l'ordinateur. Donc ça, c'est la vision plutôt impérative de la programmation. Le programme est quelque chose qui change au cours de son exécution l'état de la mémoire, notamment, via des affectations de variables, des affectations dans les cases de tableau, des allocations, modifications, libérations de structures de données. Et il y a aussi des effets sur le contrôle, le flot de contrôle du programme, avec des contrôles exceptionnels. Donc, comme là, on peut en réaliser avec des exceptions, des continuations, du retour en arrière, etc. Et donc la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quelle théorie peut rendre compte de tous ces effets dans tous les langages de programmation. Et je mets théorie au pluriel parce qu'en fait on va en voir deux. Commençons donc par la plus ancienne, donc les monades, théorie qui apparaît à la fin du XXe siècle. Alors le mot monade lui-même est beaucoup plus vieux que ça et a beaucoup de sens différents. Donc à l'origine c'est un concept de philosophie, un concept en métaphysique qui apparaît dès les Grecs, qui est en gros l'atome de le concept, un concept élémentaire qu'on ne peut pas casser en plus petits concepts, donc une espèce d'atome des concepts. Et Leibniz par exemple a écrit tout un traité de monadologie que je n'ai pas lu et donc je ne vais pas essayer de vous le résumer. Ensuite, le mot est réutilisé dans les années 60 en théorie des catégories, donc une certaine construction catégorique que Gottman appelait la construction standard et qui, dès le livre de MacLean, s'appelle les monades. Et les monades qui nous intéressent aujourd'hui, c'est celles introduites par Eugenio Moggi à la fin des années 80 comme outil sémantique pour justement décrire les langages avec effet. Et peu de temps après, donc Philippe Vadler a observé que c'était aussi un moyen pour programmer avec des effets dans un langage pur, un peu comme la transformation CPS est un moyen pour programmer avec des continuations dans un langage qui n'a pas call CC. Et donc la communauté Haskell, notamment, a beaucoup utilisé ce concept. Et aussi les gens qui formalisent des programmes avec effets et veulent raisonner dessus, par exemple dans des assistants à la démonstration comme Coq ou Lean. Mais donc repartons de justement des travaux de Moggi et sa motivation. Sa motivation, en fait, c'était de voir que les sémantiques dénotationnelles sont compliquées et à chaque fois qu'on ajoute un nouveau trait, on est obligé de les compliquer davantage. Donc au quatrième cours, on a aperçu différentes formes de sémantiques dénotationnelles. Alors par exemple, pour l'état mutable, la sémantique, la dénotation d'une commande, c'est une fonction de l'état mémoire initial dans l'état mémoire final. Un transformateur d'état mémoire, éventuellement avec bottom pour marquer la non-terminaison. Mais pour d'autres langages, vous avez aussi besoin d'un environnement, par exemple, qui va faire correspondre des noms de variables à des adresses dans la mémoire, et puis l'état mémoire va donner le contenu de ces adresses. Donc là, on a un paramètre de plus qui est type environnement. Maintenant, si vous voulez rendre compte du go-to non local, comme on a le goal, on a vu que c'était tentant d'introduire des continuations dans la sémantique. Donc maintenant, la dénotation d'une commande, ça prend un environnement, un état mémoire initial, une continuation à laquelle il passera l'état mémoire final, et qui renverra un résultat qui est le résultat de tout le programme. Et à chaque fois qu'on change un peu la sémantique des notationnels, on doit refaire la sémantique des constructions de base, comme par exemple la séquence. Au début, c'était juste la composition des dénotations. Après, quand on met un environnement, il faut le distribuer sur chacune des dénotations, de S1 et de S2. Après, quand on met des continuations, il faut expliciter une continuation pour S1 qui reprend la main et qui fait S2, et ainsi de suite. Et cette impression de refaire un peu toujours la même chose, on l'a aussi quand on utilise des transformations de programmes fonctionnels, pour, entre autres pour leur donner une sémantique précise. Et on en a vu plusieurs aux deux derniers cours. La transformation CPS, donc Continuation Passing Style, qui rend explicite la stratégie d'évaluation et puis qui permet de décrire ensuite la sémantique de CallCC ou d'autres opérateurs de contrôle. On a vu brièvement C2, la transformation CPS dite à deux canons. Maintenant, on a deux continuations et ça permet de décrire les exceptions, la gestion d'exceptions, et puis une autre transformation ERS, que j'ai appelé ERS, Exception Returning Style, qui permet aussi de décrire les exceptions. Et à chaque fois, dans ces transformations, il y a des choses qui se ressemblent. Par exemple, le traitement des constantes ou des abstractions de fonctions, des lambda abstractions. Donc là, je vous ai mis CPS, CPS double canon et ERS. Et même si ça a l'air différent, en fait, on fait un peu la même chose dans les trois cas. On a une valeur, la constante ou la lambda avec le corps transformé, et qu'on veut renvoyer immédiatement comme résultat, par exemple en la passant en argument à la continuation ou à la continuation normale, ou en mettant un constructeur V autour pour dire qu'il n'y a pas eu d'exception. En revanche, pour la liaison let, par exemple, il y a une autre similarité qui est que dans les trois cas, on va commencer par forcer l'évaluation de E1, par exemple en lui passant une continuation ensuite qui va récupérer sa valeur X et on va évaluer E2. Donc il faut à la fois évaluer E1, récupérer sa valeur, l'allier à X et continuer par E2. Et ça, c'est trois manières d'exprimer ce que je viens de dire. Pour l'application de fonctions, c'est pareil, sauf que maintenant, on a en fait trois calculs à séquentialiser. D'abord, il faut calculer la partie fonction E1 et extraire sa valeur F, ou V1 plutôt ici. Il faut calculer la partie E2, extraire sa valeur V2, et enfin faire l'application V1, V2, ici, là ou là. Et donc, Genio Moji cherchait un cadre, un langage, dans lequel ce sera plus facile d'écrire ces sémantiques dénotationnelles et ces transformations de programme, et d'une manière qui soit plus robuste, d'une certaine manière, à l'ajout de nouveaux traits. Donc il appelle ça le lambda calcul computationnel, et il choisit de distinguer très clairement entre valeur et calcul. Alors, quelques années après, Paul Blaine Levy a eu ce slogan génial, « Les valeurs sont, les calculs font ». Donc un calcul, c'est quelque chose qui va finir par produire une valeur, un résultat, mais autant la valeur, par exemple c'est un entier, d'accord, c'est quelque chose que vous pouvez consulter autant de fois que vous voulez, il n'y aura pas d'effet, autant le calcul, avant de produire sa valeur, il peut faire des effets observables, arbitraires. Et donc le calcul fait des effets, alors que la valeur est un entier, une fonction, etc. Bien. Et donc, dans l'approche de Moji, on utilise du typage, en fait. On dit qu'une valeur, un calcul qui produit une valeur de type A, il n'a pas le type A, il a le type T de A. T, c'est un constructeur de type qui dépend des effets qui vous intéressent. Et différents choix pour T vont correspondre à des sémantiques dénotationnelles différentes ou des transformations de programmes connues pour différents effets. Par exemple, si vos calculs dépendent d'un environnement, ils vont être, ça va être des fonctions de env dans A. Pour effectuer le calcul, il va falloir lui donner l'environnement et l'environnement pourra être consulté pendant le calcul. Si votre programme a un état mutable, alors T de A, la commande, va prendre un état mémoire initial et calculer une paire de la valeur et de sa valeur et de l'état mémoire final. Donc on va avoir S flèche A croix S. Si vous avez des exceptions, votre calcul, il peut soit produire une valeur de type A, soit produire une exception. Donc on peut avoir un type somme A plus EXN. Si vous avez du non-déterminisme, on peut interpréter le non-déterminisme comme l'ensemble de tous les résultats possibles, d'accord ? Donc maintenant, la dénotation d'un calcul, ça va être un ensemble de valeurs de type A. Et si vous avez des continuations, donc tous les calculs sont paramétrés par une continuation à laquelle ils doivent transmettre leur valeur finale, ce qui fait d'un type donc A flèche R pour la continuation, R étant le type du résultat final du programme, et A flèche R pour les dénotations elles-mêmes, ou les traductions CPS. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur les calculs ? Donc, comme j'ai essayé de l'esquisser au début, il y a deux opérations de base sur les calculs. Il y a le calcul trivial et il y a la composition séquentielle de deux calculs. Donc, traditionnellement appelé return pour le calcul trivial, ou RET en abrégé, et bind pour la composition séquentielle. Donc, RET, ça prend une valeur V et ça vous envoie un calcul trivial. V type A vous envoie un calcul trivial de type T de A, qui se contente de produire la valeur V sans aucun effet. D'accord ? Donc on a injecté les valeurs comme un cas particulier de calcul. Et le bind, lui, c'est comment faire deux calculs l'un après l'autre, mais en récupérant la valeur du premier avant de faire le deuxième. Donc on lui donne un calcul et une fonction, lambda x point un autre calcul, et il va effectuer le calcul A, lier sa valeur à x, et ensuite effectuer le calcul B et renvoyer la valeur de B comme résultat. Ce qui nous donne donc un type T de A, ça c'est pour la première composante, un calcul qui renvoie une valeur de type A, A flèche T de B, étant donné une valeur de type A, un calcul de type B, et T de B, puisque la composition est un calcul qui produit des valeurs de type B. Et donc c'est à la fois une séquence, mais c'est aussi une liaison, liaison let pour la valeur du résultat intermédiaire de A. Alors, comment est-ce qu'on définit RET et BIND ? Donc, c'est là que les monades arrivent. Donc, Moji, qui avait une bonne culture en théorie des catégories, se rend compte qu'on peut facilement définir RET et BIND si on a si T, notre type des calculs, est équipé des opérations d'une monade. Alors, c'est quoi ? D'abord, c'est un foncteur. Donc, pour toute fonction de A flèche B, vous savez l'étendre à une fonction de T de A flèche T de B. Ensuite, vous avez une injection de A dans T de A. Et ensuite, vous avez un join, qui étant donné un T de A, vous renvoie un T de A. Et l'intuition, c'est, par exemple, si vous avez un calcul qui vous renvoie un calcul qui vous renvoie une valeur de type A, c'est la même chose que d'avoir un calcul qui vous renvoie une valeur de type A. On peut aplatir les calculs imbriqués et dire qu'à la fin, on n'a qu'un niveau de calcul. Bon. Donc ces monades, satisfaisant certaines lois que je vous épargne, mais à partir de ça, on peut définir ce qui s'appelle aussi le triplet de Kleiss-Lee dans la littérature. Le RET dont on a besoin, ça va être l'opération état, l'injection de A dans T de A, et le bind dont on a besoin, ça va être ceci, donc appliquer fonctoriellement F sur le calcul A, ce qui vous donne des termes de type T de T de B, et ensuite aplatir un niveau de T pour avoir un T de B à la fin. Alors de nos jours, moi chez les informaticiens, on définit directement le triplet de Kleiss-Lee, le RET et le BIND qui nous intéressent, et on a tendance à appeler ça une monade, même si c'est un petit abus de langage. Alors, quelle loi on a sur ces monades, sur ces triplets de Kleiss-Lee plus exactement ? En fait, il y a trois lois universelles qui sont vraies pour toutes les monades. L'une, c'est que le RET est neutre à gauche, c'est-à-dire si vous faites en séquence le calcul trivial RET de V, puis le calcul décrit par F, c'est la même chose que d'appliquer directement F à V. Symétriquement, RET, c'est aussi un neutre à droite du bind. Si vous faites un calcul A, et ensuite vous récupérez la valeur et vous la renvoyez tout de suite, c'est la même chose que de faire le calcul A. Et enfin, la composition, le bind est associatif, au sens que s'il vous faut effectuer A puis F et mettre le résultat dans G, c'est la même chose que d'effectuer A et de mettre le résultat dans la composition de F de X et de G. D'accord ? Dans les trois cas, dans les deux cas, vous allez effectuer d'abord A, puis F appliqué à la valeur de A, puis G appliqué à la valeur envoyée par F. Alors, quelques exemples de monades pour aller avec les définitions de type qu'on a déjà vues. Donc, on a dit pour le non-déterminisme, le type d'un calcul, c'est un ensemble de valeurs de A, ou, alors suivant le type de non-déterminisme qui vous intéresse, ça peut être juste une liste de valeurs de A, où l'ordre et la multiplicité jouent un rôle. Mais disons que c'est juste un ensemble. Dans ce cas-là, c'est quoi le RET pour cette monade ? Eh bien, c'est l'ensemble singleton. D'accord ? Si la seule valeur possible pour une valeur, c'est cette valeur, il n'y en a pas d'autre. Et le bind, ça va être en fait donc l'union des valeurs possibles pour f quand x parcourt les valeurs possibles pour a. Et alors, comme dans toutes les monades qu'on va voir par la suite, il y a des opérations qui sont spécifiques à la monade de non-déterminisme, qui sont justement les opérations du non-déterminisme, qui sont au nombre de deux. Il y a choose, donc qui est le choix, on renvoie soit la valeur de A, soit la valeur de B. Donc toutes les valeurs possibles pour choose AB, c'est l'union des valeurs possibles pour A et l'union des valeurs possibles pour B. D'accord. Et le fail, l'échec, qui est juste le fait qu'on n'a pas de valeur possible, on semble vide de valeur possible. Donc voilà pour le non-déterminisme. Les exceptions. Donc on a dit T de A, ça va être un type somme, soit une valeur de type A, soit une exception. Donc là, j'utilise une syntaxe un peu à la Camel pour introduire les noms de constructeurs. Donc V qui va marquer les valeurs, E qui va marquer les exceptions. Du coup, le RET, renvoyer une valeur V, ça ne lève jamais l'exception, donc c'est juste V de V, d'accord, la valeur V taguée avec le constructeur grand V. Et le bind est défini par K. Donc si le premier calcul de la séquence a terminé sur une valeur V sans faire d'exception, alors on la passe à F, on fait la deuxième partie de la séquence. Si la première partie a terminé sur une exception, E de F, alors une exception E de E, on renvoie directement cette exception. D'accord, la séquence est interrompue, on ne va pas exécuter F, et E de E va être le résultat du bind. Et après, on a des opérations spécifiques aux exceptions, l'une pour lever une exception, d'accord, qui consiste à appliquer le constructeur grand E, et l'autre pour gérer les exceptions, le try with, qui consiste à discriminer donc sur la forme de A, si c'est une valeur, on la renvoie, si c'est une exception, on exécute le gestionnaire B. Voilà, donc ça c'est la monade qui vous décrit, une des monades qui vous décrit les exceptions. L'état mutable, on a dit, les calculs, donc ils vont prendre un état mémoire initial S, renvoyer une paire d'une valeur et de l'état mémoire final. Donc une paire à croix S de la valeur et de l'état mémoire final. RET ne modifie pas l'état mémoire, donc il renvoie l'état mémoire inchangé. Et bind, eh bien, il prend l'état mémoire avant l'exécution de A, il le passe à A pour que A s'exécute. A renvoie sa valeur, son état mémoire final S2, qui va servir d'état mémoire initial pour le calcul F de X, lequel va renvoyer sa valeur et un état mémoire final. D'accord. Et là aussi, on a des opérations spécifiques, donc typiquement get et set, donc la lecture et l'affectation sur des références ou des variables impératives, si vous voulez, donc que je vais noter petite L. L, c'est comme location, on peut voir ça comme des adresses dans la mémoire. Donc get de L qui prend l'état mémoire courant, consulte cet état mémoire pour trouver le contenu de la case mémoire L, envoie ça comme valeur et ne modifie pas l'état mémoire. Et set de L et de V prend l'état mémoire courant, renvoie une valeur triviale, mais surtout renvoie un état mémoire mis à jour, dans lequel, à la case L, il y a maintenant la valeur V. Je continue mon air du catalogue. Donc, les continuations, maintenant, on a dit, c'est A flèche R flèche R. Donc, A flèche R, c'est le type de la continuation qui attend une valeur de type A, et donc, tous nos calculs vont être paramétrés par une continuation. Si c'est juste une valeur, le RET, on prend une continuation, on l'applique immédiatement à V, il n'y a pas d'autre calcul à effectuer. En revanche, si on a une composition, une séquence, bind à F, alors on va exécuter A en lui donnant une continuation qui récupère la valeur de A, lambda X, et qui la nomme X, et ensuite on va exécuter F de X avec la continuation initiale K. Et F va finir par appeler K sur sa propre valeur. Et dans cette monade, on peut avoir des opérateurs spécifiques, comme par exemple le call CC, que je vous ai défini ici. Après, on peut s'amuser à combiner plusieurs effets. Par exemple, si vous voulez faire des états, état plus exception, un peu ce qu'on a en camel, eh bien, vous pouvez dire, d'accord, un calcul qui envoie une valeur de type A, c'est une fonction qui prend l'état mémoire initial, renvoie l'état mémoire final, et renvoie soit une valeur de type A, soit une exception. Si vous avez état plus continuation, vous pouvez dire, d'accord, un calcul, ça prend un état mémoire initial et une continuation à laquelle il faudra passer la valeur résultant du calcul et l'état mémoire final. Si vous voulez combiner continuation plus exception, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a une qui est simplement de dire, je vais avoir une continuation qui prend une somme, Donc soit une valeur, soit une exception, ou bien je vais avoir deux continuations, c'est la fameuse CPS à double canon qu'on a vu la semaine dernière, où la première continuation attend un résultat normal de type A, et la deuxième attend un résultat exceptionnel de type E. Et vous pouvez vous amuser à écrire le RET et le BIND pour ces quatre monades, c'est pas très difficile, en gros le type vous guide, il n'y a qu'une définition qui marche bien. Bien, et donc revenons à Moji et à son lambda calcul computationnel. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc cette espèce de métalangage dans lequel on peut écrire des sémantiques dénotationnelles, mais qu'on peut aussi utiliser comme cible pour des transformations comme la transformation CPS. Alors, donc, rappelez-vous, il y a une distinction nette entre valeur et calcul. Donc parmi les valeurs, on a des constantes entières, par exemple, on a des variables, on a des lambda abstractions, et éventuellement des calculs triviaux comme l'arithmétique, des calculs purs comme l'arithmétique. Mais les vrais calculs qui peuvent déclencher des effets, donc il y a l'application d'une valeur fonctionnelle à une valeur, puisque ça va déclencher le corps de la fonction, qui lui est un calcul, bien sûr. Vous avez la conditionnelle, vous avez le calcul trivial, val de V, qui, bien sûr, va être interprété par le RET d'une monade, et vous avez donc le séquencement, qu'on peut noter comme si, d'où X reçoit M in N, qui est juste, en fait, une syntaxe pour le bind, la composition séquentielle de la monade, et puis des opérations spécifiques qui dépendent de la monade. Si c'est la monade d'état, vous avez gâté 7, par exemple. Et donc, il y a des lois pour ce lambda calcul computationnel. La première, c'est la loi qui donne la sémantique de l'appel de fonction, c'est la bêta réduction en appel par valeur. Si vous avez une fonction, lambda x.m appliquée à une valeur, alors vous substituez l'argument, le paramètre x par l'argument v dans le corps de la fonction. Et puis, vous avez trois lois monadiques, donc qui sont les lois de la monade sous-jacente, mais réexprimées dans la syntaxe du langage, du métalangage. Donc faire d'où x reçoit val de v, c'est comme remplacer x par v, excusez-moi pour cette petite typo. Faire d'où x reçoit m et ensuite val de x, c'est comme faire m. Et ensuite vous pouvez réassocier les calculs d'où. Bien, et vous pouvez aussi définir une transformation monadique systématique d'un langage fonctionnel impur, avec des effets, comme Camel, et des effets implicites, vers le lambda calcul computationnel avec des effets monadiques explicites. Et la transformation est assez simple, donc pour une constante, ben, c'est le calcul trivial, val de la constante, pour une lambda, c'est le calcul trivial, val de lambda, où on modifie le corps. On transforme le corps de la fonction. Pour une variable, c'est val de la variable. Et là où ça devient un peu plus intéressant, c'est par exemple si vous avez un let, d'accord, ça va devenir un do pour calculer d'abord la transformation monadique de la partie E1, lier sa valeur à x et effectuer la transformation de la partie E2. Si vous avez une application, cette fois-ci, on est dans Camel, hein. E1 et E2 peuvent avoir des effets de bord arbitraires. Donc vous allez commencer par exécuter la transformation monadique de E1 pour forcer tous les effets de E1 et obtenir sa valeur V, puis la transformation monadique de E2 pour obtenir sa valeur, pardon, F, pour obtenir sa valeur V, et vous allez finir par l'application F de V. Et puis, pour une conditionnelle, ben, oui, là aussi, il faut forcer l'évaluation de la condition. Et en fait, si vous combinez cette traduction monadique avec la monade qui va bien, vous allez retrouver les transformations qui permettent ensuite d'interpréter les constructions val et do. Vous allez retrouver, par exemple, la transformation CPS, si vous mettez avec la monade de continuation, la transformation ERS, si vous mettez avec la monade d'exception, la plus simple, la transformation CPS à deux canons, si vous mettez avec la monade où il y a les continuations, les doubles continuations, etc. Donc c'est un peu la dernière transformation de programme dont vous avez besoin. Et aussi, on peut, d'une certaine manière, appliquer cette transformation à la main, et de la même manière qu'on peut appliquer la transformation CPS à la main sur certaines parties de nos programmes, et programmer avec des continuations explicites, on peut aussi programmer donc de même directement, explicitement, en style monadique. Et donc des langages comme Haskell ou Camel fournissent même de la syntaxe spéciale pour aider un peu avec ça. Et alors, on peut faire deux choses. On peut écrire du code qui est utilisable dans toutes les monades. Ici, c'est le map l'itérateur map sur une liste, mais la fonction, donc il prend une liste et vous renvoie une fonction et qui vous renvoie la liste des résultats. Mais ici, la fonction f, elle peut avoir des effets, donc elle va être représentée explicitement de manière monadique, comme a flèche b de t, et vous allez obtenir un calcul monadique, donc de type t, qui renvoie une liste de b. Et donc vous voyez donc le cas de base où on renvoie la liste vide, et le cas h const t, où il faut séquentialiser les appels à f de h d'une part, puis à mmap de f de l, pour enfin faire la concaténation. Et donc ici, j'utilise cette syntaxe let étoile de Camel, qui en fait ressemble beaucoup au do de Haskell ou du lambda calcul de Moji. Et en fait, après avoir fait cette déclaration légèrement cryptique, vous avez que ceci, let étoile x égale à inb, s'expanse en le bind a phoenix flèche b. Et du coup, ça vous fait du code qui est monadique, mais qui ressemble quand même pas mal à du code écrit en style direct. Donc c'est plutôt agréable. Et après, vous pouvez aussi vous mettre dans une monade particulière. Ici, ce sera la monade de non-déterminisme, où là, vous avez aussi les opérations choose et fail. Et ça va vous permettre d'écrire, par exemple, toutes les manières d'insérer un élément x dans une liste L. Donc, x inséré dans L. On peut toujours l'insérer en tête, l'ajouter en tête. Mais il y a une autre possibilité, alors, sauf quand L est vide. Auquel cas la deuxième possibilité échoue tout de suite, mais si elle n'est pas vide, on peut aussi insérer plus loin et remettre H en tête. Et avec ça, vous pouvez facilement écrire toutes les permutations d'une liste L, comme toutes les manières d'insérer la tête de la liste dans une permutation de la queue de la liste. Et ça se lit plutôt facilement. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire en programmant directement en style monadique. Mais donc aujourd'hui, on ne va pas trop insister sur l'aspect programmation, on va plutôt insister sur l'aspect sémantique. Et donc maintenant, on va voir des monades assez particulières, on appelle les monades libres, qui répondent à la question suivante: est-ce qu'on peut exécuter un programme monadique sans forcément exécuter tout de suite les effets qu'il contient? Par exemple, on n'est pas encore très sûr de la sémantique qu'on veut donner aux effets. Est-ce qu'on peut quand même exécuter des choses? Donc ici, on va prendre comme exemple dans toute cette partie l'état mutable. Donc on a les opérations get et set, et puis le non-déterminisme, on a les opérations choose et fail. Donc est-ce qu'on peut évaluer les appels de fonctions, les enchaînements do, les conditionnels, tout en laissant d'une certaine manière les effets non interprétés? Alors la réponse est oui, et pour ça on va définir un type de données, ce sont les résultats intermédiaires d'évaluation, c'est un type qui représente tous les enchaînements possibles des effets du programme. Alors, ils sont au nombre de 5, il y a 5 types d'enchaînements. D'abord il y a le programme qui ne fait plus d'effet, qui va juste renvoyer un calcul pur qui renvoie une valeur de type A. Ensuite le programme il peut faire un effet get, une certaine adresse mémoire L, et à ce moment-là, on va avoir comme sous-arbre autant de sous-arbres que de valeurs possibles pour ce qu'on lit dans la case mémoire, donc une fonction des valeurs dans des sous-arbres R de A. Si vous avez une opération set, elle va prendre une adresse log, une nouvelle valeur val et le calcul qu'il faut faire après avoir fait l'affectation. Si vous avez un choose, il va prendre deux calculs, deux sous-arbres de type R de A. Et si vous avez un fail, ben c'est une feuille, d'accord, on arrête le calcul. Et donc avec ça, vous arrivez à construire une espèce de représentation arborescente de tous les effets possibles et tous les enchaînements possibles d'effets que le programme va faire. Donc ici, voilà un petit programme idiot, mais qui montre à la fois du non-déterminisme. Donc on fait un choose entre cette possibilité, renvoyer 0 ou échouer tout de suite. Et dans la première possibilité, on affecte 0 à la case mémoire L, on relie la case mémoire L et on renvoie x plus 1. Et donc, si on fait cette espèce d'évaluation partielle du programme monadique, il va nous renvoyer un arbre, il y a un autre choose au sommet, le sous-arbre droit a lui-même un choose, avec une feuille pure 0 et une feuille fail. Et ce qui est plus intéressant, c'est le sous-arbre gauche, qui va commencer par une opération, set L de 0, et qui est une continuation possible, dans laquelle on fait get de L, et là, comme on n'a pas interprété get et set, on ne sait pas que get de L va renvoyer 0. D'accord. Donc on dit il y a toutes les possibilités, toutes les valeurs sont possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et donc on a une infinité de sous-arbres indexés par le résultat de Gate de L. Et si c'est 0, ben, ça va être pur de 1. Si c'est 1, ça va être pur de 2. Si c'est 2, ça va être pur de 3, etc. Et ce qui est joli, c'est que ce type des résultats intermédiaires forme lui-même une monade. Évidemment, le red de la monade, c'est l'opération pure, le constructeur pure. Et le bind, il est défini, en fait, donc par ces équations-là, mais il y a une intuition qui est plus simple, c'est de dire le bind, c'est remplacer toutes les feuilles de l'arbre, bind A dans F, c'est remplacer toutes les feuilles de l'arbre A, toutes les feuilles pures, par, pure d'une valeur V, par F de V. D'accord ? Et donc greffer un nouveau sous-arbre aux feuilles, et qui représente la deuxième partie du calcul. D'accord ? Et donc ça va vous donner un arbre qui représente donc le bind. Donc, on a un type qui forme une monade, et avec donc cette monade des résultats, on peut calculer le résultat intermédiaire M d'un calcul monadique grand M, le résultat intermédiaire que je note dénotation de M, parce que c'est une forme de sémantique dénotationnelle. Donc, vous partez d'un calcul monadique et vous obtenez cette espèce d'arbre de tous les effets possibles. Donc je ne vous lis pas tous les... Mais bon, le doux est interprété par le bind qu'on vient de définir. Les opérations spécifiques à la monade sont interprétées par les constructeurs de l'arbre, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet arbre ? Eh bien, on peut maintenant décider d'une interprétation sur les effets. Et en fait, donc ça va être une fonction que j'appelle run, puisqu'elle va prendre un arbre et puis vous donner finalement, exécuter tous les effets qu'il y a dedans. Et c'est un parcours de l'arbre de type fold, en fait, donc il y a une forme particulière. Et c'est la fonction run, c'est ce parcours qui va décider de la sémantique concrète des effets. Par exemple, ici on a à la fois de l'état mémoire et du non-déterminisme, il y a en fait deux sémantiques possibles. La première, c'est au point de choix, on fait un retour en arrière de l'état mémoire, donc on oublie les affectations qu'on a pu faire dans la première branche, et on repart donc du même état mémoire initial pour la deuxième branche. Et ça, donc ça va devenir une fonction de type R de A, donc un arbre décrivant des valeurs de type A, un état mémoire, un ensemble de valeurs de type A. Et donc vous voyez ici l'état mémoire qui se fait consulter pour l'état get, qui se fait mettre à jour pour l'état set. Vous voyez l'ensemble des résultats qui se forment ici avec le cas pure, un singleton, le cas fail, l'ensemble vide, le cas run, l'union des ensembles, des runs de R1 et R2, et le point intéressant, c'est que R1 et R2 sont exécutés dans le même état mémoire initial. Maintenant, il y a une autre sémantique possible où l'état mémoire persiste au point de choix. D'accord ? Donc c'est plutôt, vous avez une fonction impérative et qui peut produire plusieurs résultats, et vous voulez avoir l'ensemble des résultats et l'état mémoire final. Et donc là, le type, c'est R2A flèche store flèche 7 2A croix store. Et la différence apparaît notamment dans le cas choose, où, enfin dans le cas pure déjà, où il faut toujours renvoyer l'état mémoire courant. Et dans le cas choose, où on tisse, on thread l'état mémoire de S, de S1 et S1 ici. Cette typo est dommage parce que c'est exactement ce que je voulais montrer. Donc R2 de appliqué à S1 repart de l'état mémoire final de R1 et vous donne S2. Voilà. Alors maintenant, la construction qu'on vient de faire, ce type, c'est en fait une instance d'une construction catégorique plus générale qui s'appelle la monade libre. Et où on peut définir en fait nos arbres de manière très générique, soit comme étant une feuille contenant une valeur de type A, soit comme étant un nœud opérateur contenant quelque chose de type F de R de A. Donc F, c'est une fonction des types dans les types. C'est même plus que ça, c'est un functeur qui vient donc avec une de ces opérations Fmap, map functoriel. Si vous savez transformer A dans B, vous savez transformer F de A dans F de B. Et donc dans l'exemple précédent, F de X, c'est juste, c'est les quatre constructeurs correspondant aux quatre effets dans lesquels les sous-calculs sont représentés par le paramètre X, les sous-arbres sont représentés par le paramètre X, il n'y a rien de bien compliqué, et le Fmap est aussi trivial à définir, je vous laisse essayer. Et du coup, cette présentation functorielle, elle permet de définir RET et BIND de manière générique. qui va s'appliquer à n'importe quel functeur F, et la construction est facile. Donc red de V, c'est toujours le constructeur pure, et le bind a deux cas, le bind sur une feuille de l'arbre, pure de V, c'est juste appliquer F à la feuille, et le bind sur un nœud d'opérateur, c'est un nœud d'opérateur où, sur lequel on a appliqué functoriellement donc, le bind. C'est juste une manière un peu plus générique et un peu plus abstraite de présenter ce qu'on a fait dans un cas particulier. Et on peut même aller un cran plus loin. Donc après la monade libre, il y a la monade plus libre, la freer monade, par opposition à la free monade. Donc ça, c'est Kiselyov et Ishii qui ont utilisé cette terminologie que je n'aime pas beaucoup. Mais bon, donc voilà, nous allons parler de monade plus libre. Et c'est aussi une construction générique du type des résultats intermédiaires d'exécution, mais qui est peut-être un peu plus facile à utiliser. Donc là, on a encore deux constructeurs, pure pour les feuilles de l'arbre et hop pour les nœuds qui représentent une opération avec effet. Mais cette fois-là, un nœud hop, il porte deux choses. Il porte une valeur de type FB, qui en fait c'est un effet qui produit un résultat de type B, et chaque effet qui nous intéresse va être un constructeur de ce type, et une continuation, donc qui attend le résultat de l'effet, valeur B, et vous produit un sous-arbre, R de A. Et donc si vous avez un effet phi de type B, vous avez donc les sous-arbres de hop, de phi et de k, ben, ça va être k de petit b pour b, petit b parcourant grand b. Il y a autant de sous-arbres que d'éléments dans le type grand b que de résultats possibles pour l'effet. Alors vite un exemple, pour l'état mutable et le non-déterminisme, on va avoir les déclarations suivantes pour les constructeurs get, set, fail et flip du type effet. Get prend une adresse et renvoie un effet qui produit une valeur, donc il y aura autant de sous-arbres que de valeurs. Set prend une adresse, une valeur et renvoie un effet de type unit avec un seul sous-arbre, puisqu'il n'y a qu'un seul élément dans le type unit. Fail renvoie un effet de type vide. Donc le type vide, c'est celui où il n'a aucune valeur, donc du coup, il n'y aura aucun sous-arbre. Et flip va renvoyer, donc c'est un booléen qui vaut soit vrai, soit faux, donc il va renvoyer un booléen, et donc deux sous-arbres. Et alors l'opération choose ne rentre pas bien dans ce cadre, donc on va la coder avec l'effet flip. L'idée, c'est de choisir entre deux sous-arbres R1 et R2, c'est prendre un booléen de manière non déterministe B, et s'il est vrai, faire R1, et s'il est faux, faire R2. Et cette autre présentation de la monade libre, celle qui est maintenant indexée par un type B, permet aussi de définir ret et bind de manière générique. Donc on n'a rien perdu. Donc ret, comme d'habitude, c'est le pure, bind de pure de V et de F, comme d'habitude, c'est F de V, et bind d'un nœud d'opération, hop, avec un effet phi et une continuation k, c'est l'opération avec le même effet phi et la continuation qui récupère la valeur de l'effet, la passe dans la continuation k, et emballe le tout avec F, et continue avec F. Voilà. Et alors ce que je lis là-dedans, c'est qu'on n'a plus besoin de functeur, ni de Fmap, d'accord ? Cette construction, elle marche pour tous les constructeurs d'effets. Et alors, est-ce qu'on peut aussi, comment est-ce qu'on peut interpréter les effets dans cette monade libre, ou cette monade plus libre ? Eh bien, ben là aussi, on va faire un fold, un parcours sur l'arbre des effets, sauf que maintenant, le fold, il est d'une certaine manière générique, c'est-à-dire qu'il est paramétré par deux actions, F et G. F, c'est l'action à effectuer sur les feuilles de l'arbre, et G, c'est l'action à effectuer sur les nœuds de type hop. Et G va prendre donc l'effet phi et une continuation dans laquelle le run est déjà pré-appliqué à tous les cas possibles. Et donc pour le non-déterminisme avec retour en arrière de l'état mutable, par exemple, on prendrait F qui prend X, l'état mémoire S et renvoie le singleton X, ça c'est l'interprétation des feuilles, des calculs purs, et G qui va être défini par 4K suivant l'effet qui est effectué. D'accord. Mais encore une fois, si vous dépliez toutes ces définitions, vous retombez sur le cas particulier avec lequel on a commencé. Hein. C'est juste pour montrer que ça va être facile de changer la sémantique ou même de changer complètement la monade en rajoutant ou en enlevant des effets. Et vous savez que j'aime bien l'inversion de contrôle, c'est un peu un leitmotiv dans ce cours. Vous remarquerez une inversion de contrôle dans cette exécution. Dans le cas hop, D'accord. On donne à G les moyens de faire run sur les continuations, sur les sous-arbres, et, mais c'est G qui va décider à quel moment les construire. Et donc G, par exemple, vous pouvez tout à fait, alors peut-être avec un G un peu bizarre, mais vous pouvez tout à fait, vous pouvez donc tout à fait dire, ben, au bout d'un certain nombre d'effets, j'arrête, par exemple, ou bien entrelacer l'évaluation de deux calculs ou des choses comme ça. Et donc dans la progression, donc monade libre, monade plus libre, et maintenant on arrive aux arbres d'interaction, tels que publiés par Chiar, Yakovsky et co-auteur à Popol 2020. C'est en fait une version co-inductive du type des résultats intermédiaires. Donc co-inductif, ça veut dire possiblement infini. Et ça, c'est utile pour rendre compte des calculs qui divergent. Donc ce qu'on fait simplement, c'est donc on part du même type des arbres que pour la monade plus libre, avec Pure et Hop. On rajoute un constructeur taux, qui représente une étape de calcul sans effet observable, donc R2A flèche R2A, et on prend l'interprétation co-inductive sur cet arbre, à savoir, on peut avoir, sur ce type, donc ça veut dire qu'on peut avoir des arbres infinis, hein, avec des branches infiniment profondes. Et un tel arbre infini utile, c'est bottom, qui est défini comme taux de bottom, c'est-à-dire l'arbre infini, taux de taux de taux de taux de taux de taux, etc., et qui représente un calcul qui diverge sans aucun effet observable. Mais vous pouvez aussi avoir des calculs qui ne terminent pas, mais qui font des effets à chaque étape. Par exemple, celui-ci, la fonction récursive qui, à chaque étape, choose entre 0 et un appel récursif. Donc, c'est un exemple de fonction qui termine presque sûrement dans un modèle probabiliste et que vous pouvez définir par un arbre infini avec des flips et à gauche, une feuille pure 0 et à droite, un arbre infini. Voilà. Donc maintenant, je voudrais vous faire un tout petit peu d'algèbre et pour répondre à la question, pourquoi la monade libre est libre? Qu'est-ce qu'il y a de libre dans cette monade libre et même dans la monade plus libre? Et pour ça, donc, on va faire un tout petit peu d'algèbre. Et d'abord, donc, et puis ça va nous servir ensuite à expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a d'algébrique dans les effets algébriques. Alors, une structure algébrique, c'est quoi ? Typiquement, c'est un ensemble ou un type qu'on appelle le support de la structure. Il y a des opérations sur cet ensemble, et puis il y a des lois, des équations qui sont satisfaites par ces opérations. Par exemple, un monoïde, c'est donc un type T, avec une loi de composition, un opérateur de composition marqué par un point, donc qui prend un T vous renvoie un T, et puis un élément distingué, epsilon de type T, qui va être l'élément neutre, et trois équations, la première qui dit que epsilon est le neutre à gauche de la composition, le deuxième qui dit qu'il est le neutre à droite de la composition, et la troisième qui dit que la composition est associative. Structure un peu plus riche, maintenant un groupe, alors que je vais noter de manière additive, donc c'est un type T, une loi de composition plus, qui prend deux éléments du groupe et vous renvoie un élément du groupe, un opposé moins, prend un élément du groupe et vous renvoie son inverse, et un élément neutre que je vais noter 0. Et les lois, maintenant, il y en a un peu plus. Il y a deux lois pour dire que 0 est neutre vis-à-vis de la composition, à gauche et à droite. Une loi pour dire que la composition est associative. Et une loi pour dire que l'inverse, c'est bien l'inverse, à gauche aussi bien qu'à droite. Bon. Alors, si on est pédant, on va distinguer très soigneusement entre théorie et modèle. Donc la théorie, c'est juste la signature des opérateurs, leur nom, leur type, et les équations qu'ils doivent satisfaire. Maintenant, un modèle de la théorie, ça va être une donc ça, on peut voir ça comme une interface, d'une certaine manière, une spécification, et un modèle de la théorie, ça va être une implémentation, c'est une définition du type du support et des opérateurs, et le tout doit devoir satisfaire les équations. Par exemple, voici des modèles de la théorie des monoïdes, alors on appelle ça généralement juste des monoïdes, d'accord. Les entiers naturels, avec la somme plus et comme composition, 0 comme élément neutre, les nombres réels avec la multiplication comme composition, 1 comme élément neutre, les endofonctions, donc les fonctions de T dans T, avec la composition de fonctions comme composition, la fonction identité comme élément neutre, Bon, et vous pouvez en trouver d'autres, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que c'est qu'un groupe ? Un groupe, c'est un modèle de la théorie des groupes. Et par exemple, on a le groupe multiplicatif, donc des additifs, pardon, des entiers Z, des entiers relatifs, ou le groupe multiplicatif des réels non nuls. D'accord ? Donc voilà, théorie, une théorie, plusieurs modèles. Et alors oui, on retrouve aussi ces mêmes notions en informatique dans la théorie des types abstraits algébriques, qu'on a brièvement mentionné au cours de l'an dernier, ce qui est un style de spécification pour des structures de données persistantes, où là aussi on donne la signature des opérations, on donne les équations qu'elles doivent satisfaire, et ensuite on laisse l'implémentation abstraite, cachée. L'exemple classique, c'est les piles. On a quatre opérations, empty, la pile vide, push pour empiler un élément, top pour voir ce qu'il y a au sommet, pop pour enlever le sommet de la pile, et deux équations qui nous disent quel est le top et quel est le pop d'une pile où on vient d'empiler V. Et vous pouvez ensuite ajouter des opérations pour, par exemple, add, qui va vous faire une file d'attente, une FIFO, avec ces deux équations-là en plus. Donc même idée, une théorie, et après plusieurs modèles qui vont être des implémentations concrètes de la structure de données, qui peuvent être très simples, juste une liste, ou des trucs super compliqués comme on a vu l'an dernier. Bien, mais revenons sur notre ami le monoïde. Parmi tous les monoïdes, il y en a un qui est très intéressant, parce qu'il est libre. C'est le monoïde des mots, en fait. Donc vous partez d'un ensemble, un alphabet, grand A, et le monoïde libre sur A, c'est donc A étoile, qui est l'ensemble des mots sur A, c'est-à-dire des listes finies dont les éléments sont de type A, A1, A2, AN, que vous allez équiper d'une opération de composition, qui est la concaténation des listes ou des mots, et d'un élément neutre, epsilon, qui est la liste vide, le mot vide. D'accord. Et donc, par exemple, si votre alphabet, c'est les chiffres de 1 à 9, 1 composé avec 2, 3, composé avec 4, 5, 6, c'est le mot 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Donc, vraiment, une structure algébriquement très simple. Mais, justement, c'est la plus simple de tous les monoïdes, ou le moins contraint de tous les monoïdes dont le support contient A, dans la mesure où, si vous avez un autre monoïde, B, que je note additivement, donc plus c'est la composition, 0 c'est l'élément neutre, et qui contient l'alphabet A, vous pouvez définir une fonction phi des mots de A dans B, qui est en fait juste un fold du plus, donc qui est, on interprète chacune des lettres du mot, et on les compose avec le plus et puis avec 0. Donc par exemple, si on interprète les chiffres par leur valeur numérique, phi de 4, 5, 6, ça va être 4 plus 5 plus 6. Bon. Et ce qui est joli, c'est que cette fonction est un morphisme, c'est-à-dire qu'elle commute avec les opérations des monoïdes. L'image du mot vide, c'est l'élément neutre de votre monoïde, et l'image d'une concaténation de mots, c'est la composition des images des mots. Et donc, en fait, on a réalisé ce joli diagramme catégorique qui donc définit de manière plus générale qu'est-ce que c'est qu'un modèle libre pour une théorie T engendrée par un ensemble grand X. Donc, un modèle libre, c'est un modèle de T avec une fonction qui injecte X dans le support de votre modèle, tel que pour tout autre modèle M' et toute autre injection f' de x dans ce modèle m', vous avez un morphisme de m dans m' qui commute avec f, comme ça. Et donc dans le cas du monoïde libre, notre morphisme, c'était justement celui qui interprète les mots comme des compositions des lettres. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question, qu'est-ce qui est libre dans les monades libres ? Et pour ça, d'abord, il faut se rendre compte que les monades, c'est une structure algébrique, dont les opérations, c'est le ret, le bind, et une opération up de f pour chaque constructeur f du type des effets. D'accord. Donc les signatures pour ret et bind, c'est les types habituels. Et pour l'opérateur f, alors ça dépend bien sûr du type du constructeur f, mais mettons qu'il ait des paramètres de type p et qu'il produise un effet de type B, alors up de F, ça va prendre des paramètres de type P, ça va prendre une continuation qui attend une valeur de type B et vous rendre un T de A. Et alors c'est quoi les équations ? Ben, c'est les trois lois monadiques, bien sûr, plus d'autres lois qui portent sur les opérateurs et qui dépendent, bien sûr, des effets considérés. Et Et en fait, la monade libre, comme la monade plus libre, ce sont les monades libres engendrées, des monades libres engendrées par les constructeurs du type F, par les effets, l'ensemble des effets que vous êtes en train de considérer. Par exemple, si vous partez de la monade la plus libre, pure ou up, comme on l'a vu, on peut en faire une monade, donc RET et BIND, et on peut, pour chaque constructeur du type F, définir l'opération UP de F, c'est juste un nœud UP avec une continuation triviale, qui renvoie tout de suite la valeur. Donc ça rentre, on a implémenté la signature algébrique des monades, de la monade, et maintenant si vous avez une autre monade, qui a la signature attendue, vous avez un morphisme, de R de A, donc de ces arbres, dans T de A, qui s'obtient en utilisant le RET pour les feuilles et le BIND de l'opérateur pour les nœuds. Et vous pouvez, avec un petit calcul, vérifier que ce morphisme il commute avec les opérations RET et BIND. Bon, RET, c'est trivial, et BIND, il faut faire une récurrence sur l'arbre. Et ça utilise la première loi et la troisième loi de la monade M. Voilà. Donc, voilà pourquoi la monade libre est libre. Et maintenant, on va pouvoir passer donc, à la dernière partie du cours, qui est c'est quoi la théorie des effets algébriques et qu'est-ce qu'il y a d'algébrique dans les effets algébriques. Alors, d'où ça sort, cette idée de ça peut être intéressant de prendre une vision algébrique sur les effets. Donc ça sort de l'observation que le lambda calcul computationnel de Modji, ou plus généralement l'approche à base de monades, est très forte pour spécifier comment est-ce qu'on propage les effets et comment on les enchaîne, comment on les séquence, d'accord. Mais elle ne dit pas grand-chose sur la manière dont les effets sont eux-mêmes engendrés et éventuellement gérés par les opérations de base de la monade. Set, get, choose, fail, par exemple. Et donc, des travaux de Gordon Plotkin et John Power, au début des années 2000, proposent en fait de spécifier ces opérations, l'aspect génération des effets, par des équations, comme on le fait pour les opérations d'une structure algébrique, comme on le fait pour les opérations d'un type abstrait algébrique. Et du coup, on va obtenir une structure algébrique pour les effets, qui d'une première manière va spécifier ce qui se passe, comment les effets doivent se comporter, et ensuite va servir de guide pour des implémentations concrètes qui vont être des modèles de cette théorie, de cette structure algébrique. Alors, voyons voir ce que ça donne de manière un peu plus concrète. Donc, on repart du lambda calcul computationnel de Modji, et puis on précise les trois petits points. Vous savez, dans ma grammaire, il y avait trois petits points et des opérations spécifiques à la monade. Bien. Donc maintenant, à la place des trois petits points, on va mettre un terme, grand F. Grand F, c'est le nom d'un effet, et qui prend 0, 1 ou une plusieurs valeurs en paramètres, et une continuation, en fait, donc notez ici y.m, donc y va recevoir la valeur résultat de l'effet, et on va continuer avec le calcul grand M. Et alors, il y a des cas où on n'a juste pas envie de donner de continuation, on a juste envie de noter l'effet F appliqué à des paramètres V, et ça, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est juste l'effet F appliqué à V à la continuation triviale qui renvoie tout de suite la valeur de l'effet. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lambda calcul computationnel avec effet? On peut déjà lui donner des lois génériques. Alors, les premières, c'est les mêmes lois que celles du lambda calcul computationnel. Comment est-ce qu'on évalue les applications de fonctions? Comment le fait que val est neutre à gauche pour doux, val est neutre à droite pour le doux, et que le doux est associatif. Et ensuite, on a une commutation entre le doux et les opérations avec effet. D'accord? Faire en séquence l'effet F avec une continuation M, puis N, c'est la même chose que de faire l'effet F tout de suite, avec une continuation qui va faire M, puis N. D'accord. Dans les deux cas, enfin, dans le terme de gauche, on est obligé de commencer par F, c'est la première chose à évaluer. Et dans les deux cas, donc, on va évaluer ensuite M pour la bonne valeur de Y et N ensuite pour la bonne valeur de M. Donc ça, c'est les lois génériques. Et maintenant, on va y avoir des lois spécifiques à certains effets et qui vont se présenter par des équations impliquant les effets. Alors, voilà les lois pour l'état mutable. Alors, n'ayez pas peur. Il y en a beaucoup, mais en fait, et la notation est un peu lourde. Mais vous allez voir qu'elles sont assez intuitives. On commence par les propriétés connues sous le nom de propriétés de bonne variable, good variable. Qu'est-ce qui se passe si vous faites une écriture et une lecture juste après? Donc là, vous avez écrit la valeur V dans le cas de mémoire L, et dans la continuation, fait immédiatement lire la valeur, la variable L, la case mémoire L, la lie à Z et continue avec M. Ben, si on vient d'écrire V dans L, on va relire V. D'accord. Donc, on peut supprimer l'effet get et le remplacer juste par M, dans lequel on a substitué Z par la valeur V. En revanche, si après avoir écrit dans L, vous allez relire dans L', différent de L, alors le contenu de L' n'a pas été modifié. D'accord. Donc c'est la même chose de lire L' avant de faire le set. D'accord. Donc vous pouvez commuter get et set à des adresses mémoire différentes. Alors après, vous avez d'autres exemples de commutation. Deux lectures successives peuvent toujours être commutées, l'état mémoire n'ayant pas changé entre-temps. Deux écritures successives peuvent être commutées si elles sont à des adresses mémoire différentes. D'accord. On écrit d'abord V dans L, puis V' dans L', et là, on fait dans l'ordre inverse. Et c'est correct tant que L' est différent de L. Maintenant, si vous écrivez deux fois de suite à la même adresse, c'est la deuxième écriture qui gagne, évidemment. Et donc, vous pouvez supprimer la première et dire que c'est juste cette V2 dans L. Et alors, pour finir le diagramme, qu'est-ce qu'on a? Alors, la double lecture à la même adresse mémoire, vous pouvez la remplacer par une seule lecture. D'accord. Et maintenant, si vous lisez et puis vous réécrivez immédiatement la valeur lue dans la même case mémoire, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Voilà. Et donc, ces sept axiomes, en fait, suffisent à spécifier ce que c'est que l'état mutable dans un programme séquentiel, bien entendu. Et de même, pour le non-déterminisme, alors c'est quoi les lois des effets pour le non-déterminisme? Alors, les lois pour fail, c'est intéressant, c'est de dire... Donc, fail n'a pas d'argument, et il prend une continuation, mais il ne va jamais l'appeler. D'accord. Et donc, fail avec une continuation k, c'est la même chose que fail avec une continuation k' ou que fail avec la continuation triviale. Essentiellement, c'est ce qui dit qu'on arrête le calcul et on propage le fail vers le haut, d'une certaine manière. Et alors pour le choix non déterministe, alors c'est plus facile à exprimer avec l'opération dérivée de choose. Si votre interprétation est en termes d'ensemble de résultats, c'est assez naturel de dire que choose est idempotent. Choisir entre le même calcul et entre un calcul et le même calcul, c'est faire le calcul en question. Que le choose est commutatif, que le choose est associatif et qu'il a fail comme élément neutre. Alors, ça, c'est très naturel. Maintenant, c'est le point qui coince un peu dans ma présentation. Si maintenant vous mettez à la place de choose son codage en termes de l'effet flip, l'effet de base, qui renvoie un booléen arbitraire, les lois deviennent beaucoup moins claires. Bon. Donc, ces lois spécifient comment on va traiter... Pardon. Oui, donc ces lois spécifient comment on va traiter les effets et permettent déjà de raisonner un peu sur des programmes qui font des effets. Alors, mais je saute une étape. Donc, l'étape suivante que je voulais vous dire, c'est On peut maintenant, pour chaque calcul, chaque terme du lambda-calcul computationnel avec effet, lui associer un arbre d'interaction ou un terme de la monade plus libre, comme on avait vu précédemment. Donc pour l'application, ça va être l'application des dénotations. Ça peut être le bon moment d'insérer un constructeur tau pour marquer le fait qu'il y a une étape de calcul silencieuse, si votre langage a des fonctions récursives, par exemple. Le val va être interprété par le constructeur pure des arbres, le do par le bind sur les arbres, et l'opération f appliquée au paramètre v et à la continuation y.m va devenir un nœud opération qui porte l'effet f de v, l'effet appliqué à ces paramètres, donc ça c'est une valeur d'effet, du type des effets, et la continuation lambda y, point, traduction de m. Donc ça nous donne un arbre d'interaction que l'on peut interpréter avec un fold qui va bien. Donc le fold ici, où il y a doka, f pour ce qu'on fait aux feuilles, et g pour ce qu'on fait aux opérations. Et là, se passe quelque chose d'amusant, qui est que, je vous ai dit, on peut utiliser le fold pour faire l'exécution complète de l'arbre, mais on peut aussi l'utiliser en fait pour produire un nouvel arbre. D'accord ? Et au lieu de produire le résultat final de l'exécution, un fold peut simplement se contenter de gérer, de transformer certains effets, et de réémettre les autres sous forme d'effets non interprétés dans son arbre de résultats. Et donc voilà à quoi ça ressemble, un gestionnaire pour les effets get et set. Donc ça prend un arbre avec des A aux feuilles, ça prend un état mémoire initial store, mais au lieu de produire une valeur finale A, ça va juste produire un nouvel arbre avec des effets qui calculent les valeurs de type A. Et donc c'est un fold de deux opérations, F de state, G de state. F de state, c'est ce qu'on fait dans le cas de base, juste une valeur, c'est un arbre avec une feuille pure, et G de state, il est défini dans deux cas, get et set, et là, il va appliquer directement la continuation K à l'état mémoire et à la valeur qui va bien. En revanche, pour tout autre effet phi, il va se contenter de réémettre un effet phi avec la continuation appliquée à X et à l'état mémoire courant. Donc il va dire, OK, il y a d'autres effets mémoire, il ne change pas l'état mémoire, mais, et je les laisse dans l'arbre résultat. Et on va appeler ça un gestionnaire pour les effets get et set. On peut aussi faire un gestionnaire pour les effets flip et fail, les effets du non-déterminisme. Donc cette fois-là, c'est un fold qui va prendre un arbre avec des A aux feuilles et vous produire un arbre avec des ensembles de A aux feuilles. Le F, le cas de base, c'est pure, c'est une feuille portant un ensemble singleton. Le G pour fail, c'est une feuille portant un ensemble vide. Le G pour flip, hein, c'est plus compliqué, mais essentiellement, on va appeler la continuation K sur true et sur false, qui va nous donner deux sous-arbres, dans lesquels les effets ont déjà été. Les effets fail et flip ont déjà été supprimés. Donc là, on a deux sous-arbres qui ne contiennent plus fail et flip, et on va les combiner avec, en énumérant leurs valeurs possibles, x1 et x2, et en mettant des pures, des unions de x1 et de x2. Et pour tout autre effet, eh bien, on se contente de le reproduire dans l'arbre qui sort. Et alors, ce qui est très joli, c'est que, suivant la manière dont vous composez vos deux gestionnaires, vous obtenez deux sémantiques différentes. La composition, vous commencez par gérer les effets get et set, et ensuite vous gérez les effets du non-déterminisme. Ça va vous donner une sémantique de retour en arrière de l'état mémoire au point de choix. Alors pourquoi ça? Parce que le state, il ne sait pas gérer l'effet choose. D'accord, donc l'effet de choose, il passe dans ce cas général, et ce cas général, il dit l'état mémoire n'est pas modifié. D'accord, donc les deux branches du choose vont automatiquement recevoir le même état mémoire, et ensuite, non-det va calculer les ensembles de valeurs en interprétant le non-déterminisme. Si vous faites l'inverse, vous commencez par interpréter le non-déterminisme, donc là maintenant vous avez fait toute la combinatoire de vos choix. D'accord. Et il reste des effets get et set, mais qui maintenant vont être séquentiels, vont être exécutés séquentiellement, et donc vous avez une persistance de l'état mémoire au point de choix. D'accord ? Donc, et enfin, dernière observation, c'est que si l'arbre T dont vous partez ne contient pas d'autre effet que get, set, fail et flip, eh bien, les deux compositions vont produire un arbre trivial, pure de V, dans lequel il n'y a plus aucun effet, et il ne reste plus que la valeur V, ou ensemble de V, qui est, plutôt ensemble de V, mais bon, qui est le résultat final de l'exécution du programme. Donc, on a en fait généralisé le cas run où on allait directement vers un résultat final qui est un ensemble de valeurs, et c'est devenu un cas particulier de composition de gestionnaires qui ont éliminé tous les effets. Voilà. Alors bien sûr, ces gestionnaires, il faut qu'ils vérifient les équations. Il faut que ce soit des implémentations correctes. Des effets qui respectent la spécification en termes d'équation. Alors, celles qui portent sur bind et la combinaison entre bind et les opérations up sont automatiquement satisfaites par la sémantique à base d'arbres d'interaction. Donc, il n'y a rien à démontrer. En revanche, les autres équations, il faut les démontrer sur chaque gestionnaire. Et, par exemple, pour l'état mutable, si vous regardez la traduction. Le passage aux arbres d'interaction, ça va vous réécrire les lois sous forme de lois entre arbres. Et maintenant, vous allez facilement voir que le gestionnaire state, quand il fait ses simplifications sur des arbres d'interaction, il respecte bien les équations. En fait, donc après simplification, les sept lois pour l'état mutable, ça devient deux lois triviales, les lois get-get, et cinq égalités, qui sont des propriétés, en fait, c'est quoi un état mémoire et c'est quoi la modification ponctuelle d'un état mémoire. Alors, les deux premières sont les propriétés de bonne variable. Après avoir mis V dans L, la case mémoire L contient V et les autres mémoires cases L' contiennent S de L'. Et les trois autres, en fait, sont des conséquences des deux premières lois. C'est qu'est-ce qui se passe donc si vous faites deux modifications de mise à jour successives ou une mise à jour triviale. Si vous voulez vous exercer, vous pouvez montrer que le gestionnaire non-dette, celui qui introduit des ensembles, va vérifier les équations, les lois pour le non-déterminisme, c'est-à-dire en particulier le fait que c'est idempotent, commutatif, associatif et qu'il y a un élément neutre, évidemment l'union des ensembles étant... idempotente, commutative, associative, et ayant l'ensemble vide comme élément neutre, ça doit le faire, mais ça vaut la peine de le vérifier quand même. Bien, donc, voilà comment on implémente nos effets, comment on vérifie que l'implémentation satisfait les lois, et on arrive à la dernière étape, qui est de programmer soi-même ces gestionnaires d'effets. Les gestionnaires d'effets, ce n'est pas juste des choses, disons, des définitions mathématiques dans la sémantique du langage. Ça peut aussi être des termes du lambda calcul computationnel. Et pour ça, donc, on ajoute une construction, with hash handle m. Donc ça, c'est la sémantique, c'est la syntaxe pardon, qu'avait introduite Pretnar et Bauer. Donc, qui veut dire qu'on va exécuter le calcul M en gérant certains des effets avec H. Et c'est quoi un gestionnaire ? Ben c'est un peu comme le corps d'un match en Camel 5. Il y a un cas pour les valeurs de base, enfin pour les valeurs. Si le calcul de M termine normalement sur une valeur X, alors on va faire le calcul mVal. Et puis il y a N cas qui interceptent N effets, F1, Fn. À chaque fois, on capture, on lit x au paramètre de l'effet, k à la continuation, qui peut nous ramener juste après la levée de l'effet. La levée de l'effet, c'est toujours la même syntaxe, hein, ici. Et donc, un calcul à évaluer dans chacun de ces cas. Donc, on a maintenant la possibilité donc, d'exprimer des gestionnaires d'effets dans notre langage de programmation. La sémantique intuitive, c'est plus ou moins celle qu'on avait vue au cours précédent. Donc, si M, le calcul qui est géré, termine sur la valeur V, on va évaluer le cas MVAL, avec x lié à cette valeur. Si m lance un des effets f1, fn, donc l'effet fi, avec les paramètres v, la continuation y.n, on va évaluer le cas correspondant mi en liant les valeurs v aux paramètres x, et alors avec une continuation k, qui est soit la continuation qui est dans les faits, soit la continuation qui est dans les faits, réemballé avec le même gestionnaire d'effets. Et ça, c'est la différence entre les gestionnaires superficiels et les gestionnaires profonds, shallow handling, deep handling, qu'on avait vu très brièvement au cours précédent. En fait, on n'avait utilisé que des gestionnaires profonds, donc ceux qui se réinstallent automatiquement autour de la continuation. Et alors, qu'est-ce qui se passe si M lance un autre effet, F, qui n'apparaît pas dans la liste? Eh bien, il n'est pas géré, mais il est réémis. Donc, si le gestionnaire est superficiel, il va le réémettre tel quel. Et si le gestionnaire est profond, il va le réémettre en se réinstallant autour de la continuation de l'autre effet. Donc, il n'a pas su gérer, mais peut-être des effets que lui sait gérer vont être produits plus tard. Donc, il se réinstalle autour de la continuation. Et maintenant, on peut étendre notre sémantique dénotationnelle. Donc, rappelez-vous, la dénotation d'un calcul, c'est un arbre d'interaction. Et la dénotation d'un gestionnaire, ça va être quoi, à votre avis? Ben, ça va être un transformateur d'arbre, évidemment. C'est quelque chose qui va prendre l'arbre qui représente tous les comportements possibles de M et le modifier, éventuellement en supprimant certains effets, en les gérant, ou en en réémettant d'autres, et qui va vous donner un nouvel arbre. Donc H, la dénotation de H, c'est un transformateur d'arbre d'interaction en arbre d'interaction. Et dans le cas d'un gestionnaire profond, ça va être un fold, comme on l'a vu précédemment. Dans le cas d'un gestionnaire superficiel, ça va juste être un case, une analyse de cas sur le constructeur de tête de l'arbre d'interaction. Donc vous voyez ici la différence. Case regarde juste la tête de l'arbre d'interaction, mais ne se réintroduit pas dans la continuation K. Fold, dans le cas où on a un nœud hop, se réintroduit dans la continuation K. Donc c'est exactement la différence profond-superficielle. Et donc c'est quoi les opérateurs, les deux paramètres du fold ou du case? Donc il y a un paramètre qui est la fonction de base f et l'autre qui est la fonction pour gérer les effets. Donc je les note crochet h de ret, crochet h de f. Crochet h de ret, c'est essentiellement évaluer le calcul m de val, celui qui est donné dans les faits pour le cas val de x. Et crochet h de f, c'est défini par k sur l'effet qui est reçu, donc il reçoit l'effet et une continuation. Si c'est un des effets qui s'est géré, f1, fn, eh bien il exécute, il évalue le calcul mi correspondant, d'accord. Et en fait c'est le case ou le fold à plan qui a choisi s'il y aura réinstallation ou non du gestionnaire, d'accord. Et si c'est un autre effet qu'on ne sait pas gérer, eh bien on va le réémettre tel quel. Voilà. Alors après, si vous êtes André Bauer, vous voyez là-dedans quelque chose qui est co-algébrique, plus que algébrique. Autant on peut dire qu'une algèbre, c'est défini principalement par ses constructeurs, la manière de construire de nouveaux arbres. Là, on est plutôt dans des choses qui sont définies par la manière de détruire, de parcourir, d'analyser des arbres, et donc d'où le côté co. Dual. Et donc pour André Bauer, on pourrait appeler ces différents cas des coopérations, n'est-ce pas? Puisque pour chaque opération, Fi, ça vous donne son dual d'une certaine manière. Voilà. Et donc, sur cette considération, je crois que nous avons bouclé la boucle. Et donc, nous avons montré comment on retombe sur un langage dans lequel la levée d'un effet et la gestion d'un effet, et la gestion des effets levés par un autre calcul sont des constructions primitives et s'interprètent très joliment en termes donc d'arbres d'interaction. Et donc, pour résumer, et puis comme ça on aura un peu de temps pour prendre des questions. Donc on a vu aujourd'hui deux étapes vers une théorie générale des effets dans les langages de programmation. Donc la première étape, née des années 90-2000, ce sont donc les monades, qui était initialement motivé par le besoin de mettre de l'ordre dans les sémantiques dénotationnelles et les transformations de programmes fonctionnels. La transformation monadique, c'est un peu la dernière transformation de programme fonctionnel que vous écrirez jamais. Justement, ça permet aussi donc, de programmer en style monadique. C'est une généralisation de la programmation en style à passage de continuation. Ça permet d'utiliser des effets qui ne sont pas supportés par votre langage de programmation favori. Donc si vous êtes dans un langage fonctionnel pur, Haskell, Coq, AGDA, ça vous permet d'écrire du code impératif, par exemple. Si vous êtes dans Camel ou en Scheme, vous avez déjà certains effets, comme l'effet mutable, comme l'état mutable, ça vous permet de définir vos propres effets, comme le non-déterminisme, par exemple. Donc, un style de programmation très utile. Alors maintenant, les effets algébriques. Donc, il y a cette idée qu'on va spécifier les effets par des équations, qu'on va les implémenter par des gestionnaires d'effets, et que les gestionnaires d'effets, ce sont des folds ou des cases sur des arbres d'interaction, et que les gestionnaires peuvent être définis dans le langage de programmation lui-même, et que ça donne une alternative, cette fois-là pour programmer avec des effets, y compris des effets pas fournis par votre langage de base, mais en style direct, cette fois-ci, pas nécessairement en style monadique. Voilà. Et pour finir, donc quelques références bibliographiques. Alors, si vous n'avez jamais lu de tutoriel sur la programmation avec des monades, en voici un très bon, écrit par l'inventeur de la programmation monadique, Philippe Wendler. Je rappelle le texte le tutoriel de Mattia Pretnar, qui est vraiment une très bonne introduction à ce que c'est que les effets algébriques et les gestionnaires d'effets définis dans le langage. La monade libre et surtout la monade plus libre sont expliquées dans cet article de Kiselyov et Ishii. Et la question, le point de vue algébrique, et en particulier les côtés structure libre et ainsi de suite, sont bien expliqués dans ces notes de cours de Andai Bauer. Voilà. Et je vous signale que nous aurons comme orateur au séminaire la semaine prochaine Mattia Pretnar lui-même, et qui, je pense, va revenir sur certaines de ces choses et approfondir aussi certains aspects de la théorie des effets algébriques. Voilà, mais je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.